Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290 euros par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000 euros suivi de 36 loyers de 290 euros réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.
Britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Polémique à la Croix, commune de 18 000 habitants dont le maire UMP a chargé 200 habitants d'être ses yeux et ses oreilles.
On ne peut pas tolérer que des gens secrets s'intéressent à ce que font les voisins. C'est pas admissible, surtout en démocratie.
C'est uniquement le bien-être du quartier et de l'environnement, je sais pas.
Vous dénoncez personne?
Ah, absolument pas, absolument pas.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'exercice de la police avec toutes ses conséquences juridiques, politiques et pratiques doit-il être réservé strictement à la seule puissance publique ou bien les simples citoyens peuvent-ils être appelés en renfort dans telle ou telle circonstance pour en appuyer l'efficacité? Depuis plus de deux siècles, de 1789 jusqu'à nos jours, les régimes successifs de la France se sont posés cette question en temps de paix comme en temps de guerre. Et voilà bien en effet un enjeu d'importance pour l'équilibre de toute société, un enjeu sur lequel les républicains spécialement ont eu l'occasion et le goût de s'interroger à toutes les époques. C'est ce que mon invité, Arnaud-Dominique Hout, professeur à Sorbonne Université, vient de faire, en historien, dans un beau livre qui est consacré à ce sujet. Max Weber définissait l'État comme doté du monopole de la violence physique légitime. Or, il s'agit là d'un principe qui a été souvent remis en cause au fil du temps. Il l'a été depuis les foules révolutionnaires qui formaient leur propre police, jusqu'au groupe s'intitulant « Voisins vigilants » dans notre 21e siècle, en passant par les gardes nationales de diverses compositions, par les détectives amateurs de la Belle Époque, par les miliciens du temps de l'occupation, par les gardes civiques de la Libération ou encore par les acteurs de l'ombre pendant la guerre d'Algérie, sans compter les nouveaux justiciers privés qui se répandent sur la toile. De tout cela et d'autres encore, nous allons suivre la trace en évoquant les limites et les critiques de leur rôle. Nous le ferons sans manichéisme, car si l'on rencontre ici les dérives les plus néfastes, il peut advenir aussi, parfois, qu'une certaine mobilisation civique serve par-delà les tentations pernicieuses à conforter les pouvoirs et la responsabilité de l'État, y compris au plus haut de ses missions démocratiques.
Oui, je suis voisine vigilante, oui, dans mon quartier, quartier de retraités.
Ils vous ont donné une carte, les gendarmes ?
Non, pas une carte, un numéro.
Donc vous avez dans votre portefeuille le petit papier avec le numéro ?
Ah oui, prête à appeler.
Comment est-ce que vous déterminez qu'un comportement est suspect ?
Je peux pas le dire comme ça, c'est d'instinct, on s'en rend compte d'instinct. On ressent quelque chose, on peut avertir, bon après c'est plus à nous à faire le travail.
Le risque en étant anonyme, c'est de passer pour un délateur ?
Oui, mais personne ne le sait. Qui prouve que c'est nous, la personne, telle personne qui a fait savoir à la gendarmerie telle chose ? Non, moi je vois plutôt un acte de bienveillance vis-à-vis des autres.
Est-ce que vous avez déjà téléphoné à la gendarmerie alors ?
Non, j'ai pas eu le besoin jusque-là. Non, moi je m'attends pas à beaucoup, hein, que je le fasse pas du tout, tant mieux. Parce que je crois que le panneau, il va sans doute avoir ses effets, quoi.
Est-ce qu'on peut aller le voir ensemble, ce panneau à l'entrée de la ville? Il est loin?
Non, il y a 500... Non, ici, c'est à 500 mètres, ici.
Il y a du vent aujourd'hui, hein.
C'est pas le meilleur moment.
Vous vous sentez un peu gendarme?
Non, pas du tout. Surtout qu'on n'a aucun contact à avoir. J'ai pas abordé les personnes qui me dérangent, quoi. Je les vois, je continue mon chemin et puis j'appelle, quoi. C'est tout simple. Bon, je le prends sérieusement, mais sans chercher plus loin.
Ah, le voilà, le panneau.
Ah, je trouve qu'il est vraiment bien lisible, hein.
Commune de Bois-Grenier, ici voisin vigilant, en liaison immédiate avec la gendarmerie et la police municipale.
Nous, on fait rien, on appelle que la gendarmerie.
Vous êtes l'œil du gendarme, alors?
L'œil et l'oreille, oui. Dans le temps, il y avait dans les villages un garde-champêtre. C'était un petit peu ça. Ben, le garde-champêtre, c'est ce qu'il faisait. Hein.
Ah oui, oui. Il n'y avait pas de pouvoir non plus.
Il n'y avait pas de pouvoir, il se rapportait à la gendarmerie ou à la mairie. Moi, je ne vois pas le côté délation, pas du tout. On ne juge pas, on entend quelque chose. On voit quelque chose qui n'est pas dans la logique des choses, on signale.
Arnaud Dominicout, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai proposé un reportage de Dorothée Barba dans Éclectique de Rebecca Manzoni le 3 avril 2010 sur France Inter. Il s'agissait des voisins vigilants, entre guillemets, de Bois-Grenier dans le nord près d'Armentières. Nous voilà tout droit dans l'actualité de notre sujet, sauf erreur de ma part.
Absolument. Alors à ce moment-là, en 2010, c'est le grand développement justement des voisins vigilants. C'est un dispositif qui est intéressant parce que d'ailleurs il est lui-même assez compliqué. Il y a d'une part un dispositif privé, c'est-à-dire une entreprise privée qui crée justement une forme de sécurité proposée aux citoyens. Et il y a au même moment le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense avec la gendarmerie qui crée un dispositif de participation citoyenne. Et là c'est ce qu'on entend, c'est-à-dire que la gendarmerie propose à des habitants de leur donner un numéro de téléphone, un contact privilégié avec la brigade de gendarmerie pour qu'ils puissent servir justement de renseignement, pour qu'ils puissent signaler ce qui leur paraît effectivement, on l'entend, anormal. Dans toute l'ampleur hein, justement de ce que peut comprendre ce terme, ce qui était intéressant, c'est que on voit bien que ces individus ne se sentent pas policiers, ils le disent. On n'est pas gendarme. Ils prennent la comparaison du garde-champêtre, qui est très intéressante, parce que le garde-champêtre, en réalité, avait des pouvoirs de police, mais on l'a un petit peu oublié, et dans la mythologie populaire, c'est un petit peu, justement, le policier de proximité, celui qui fait le lien entre les habitants, justement, et la gendarmerie.
On est là à la rencontre d'initiatives spécifiques, en particulier du côté des Alpes-Maritimes. Il y a une dame qu'on repère et qui a lancé l'idée des voyants vigilants, et d'autre part, d'un accueil bienveillant de la part des pouvoirs publics. C'est le temps de Nicolas Sarkozy, président de la République, et de Claude Guéant, ministre de l'Intérieur.
Exactement. Et j'ajouterais, quitte à paraître un peu paradoxal, que c'est aussi le moment où la police de proximité fait beaucoup parler. La police de proximité, qui était un projet, pour le coup, retoqué par Nicolas Sarkozy.
Qui disait, vous n'êtes pas des assistantes sociales, votre responsabilité est de maintenir l'ordre.
Exactement. Donc la police de proximité, officiellement, après 2002, elle a disparu. On n'en parle plus. Mais en réalité, il y a une demande sociale très forte, tout simplement parce que la police et la gendarmerie se sont beaucoup professionnalisées et qu'une distance s'est créée inévitablement avec la population. Et ce qu'on entend justement dans cette archive, qui est très intéressante à cet égard, c'est qu'il y a encore une volonté de lien, de contact. Alors ce contact passe ici par une relation privilégiée avec la gendarmerie.
Avec toujours les risques de glissement et éventuellement les avantages de cette proximité. 15 ans plus tard, 15 ans après ce reportage, les choses ont encore évolué à cause de l'entrée dans le jeu des nouvelles technologies qui vont faire naître tout un ensemble de citoyens, de citoyennes qui souhaitent intervenir éventuellement en piégeant, par exemple, les pédocriminels.
Oui. Alors, ce qui est assez fascinant, c'est que les voisins vigilants existent toujours, mais finalement, ils sont un petit peu remplacés par les plateformes de signalement qui se sont développées. Et là aussi, hein, que les pouvoirs publics encouragent, avec l'idée qu'il faut signaler d'abord, évidemment, ce qui relève d'Internet, mais plus globalement, on peut signaler aujourd'hui sur Internet des comportements suspects avec finalement l'écoute de la police. Et puis, ça va plus loin, parce qu'un certain nombre de gens, on le voit beaucoup au début des années 2020, considèrent que les nouvelles technologies leur permettent non plus seulement de renseigner, mais aussi d'intervenir. Et il y a des groupes, certains ont été très médiatisés, comme ce qu'on appelle la Team Moore, qui est née sur l'île de la Réunion et qui se développe un peu partout, mais aussi des individus de manière plus isolée. Donc ces groupes et ces individus cherchent justement à identifier les auteurs d'infractions et à les punir directement.
Mais on va plus loin, puisqu'il s'agit parfois de tendre des pièges, oui, avec de faux appels pour séduire des supposés pédocriminels.
Oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs eu un débat parlementaire assez discret, mais qui était assez éloquent, il y a 2 ans, quand certains députés avaient suggéré la possibilité d'encourager finalement les pratiques de bons citoyens signalant justement les pédocriminels. Et Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, était intervenu en disant justement que ça, il freinait fondamentalement, parce qu'il était très hostile à ce qu'il voyait comme une dérive. Et on voit dans l'actualité très récente justement les dérives, les faits divers très significatifs et très tragiques parfois, de lynchage en fait, hein, de représailles, quand le citoyen cette fois ne veut plus seulement renseigner, mais qu'il veut directement être justicier, quand il veut se substituer à la justice.
Au fond, ça renvoie à un beau texte de Bernard Delleplace, qui était un grand flic dans les années 70-80, qui dans son livre « Une vie de flic » disait « À quoi sert la police ? À éviter que tout le monde devienne policier. Si tout le monde surveille tout le monde, la dictature n'est pas loin. »
Absolument. Et je pense que c'est une des réflexions que j'avais à cœur justement en préparant ce livre. C'était finalement comment ces bonnes volontés citoyennes peuvent devenir dangereuses. Elles ne le sont pas nécessairement, elles ne le sont pas fondamentalement. Encore une fois, il y a une dimension civique qui est importante et qui est positive. Mais toute la question ici, c'est celle précisément des limites et notamment de la distinction très forte entre ce qui relève du rôle du citoyen, ce qui relève du rôle de la police et ce qui relève, in fine, du rôle de la justice.
On est renvoyé à un autre épisode qui a beaucoup marqué les esprits, qui remonte au 1er mai 2018 et qui est celui du comportement d'Alexandre Benalla, qui était un des collaborateurs de l'Élysée et qui, place de la contre-escarpe, s'est comporté d'une façon que l'on se rappelle.
Oui, absolument. Alors, il était présent dans cette manifestation en qualité d'observateur, donc avec les policiers. Et puis, il s'est saisi d'un brassard de police, d'une arme. Il a frappé des manifestants. Une procédure judiciaire a eu lieu. Il a été condamné, d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans son argumentation, Alexandre Benalla explique qu'il a agi en bon citoyen, qu'il a fait ce que les citoyens doivent faire, ce que la loi leur permet de faire. C'est-à-dire que s'ils sont témoins d'une infraction, ils ont vocation à aider la police. Alors, cette argumentation, évidemment, elle vient a posteriori. Et quand on regarde la réalité des faits, il semble que Alexandre Benalla intervient moins, finalement, en tant que bon citoyen qu'en tant que quasi-policier, puisque lui-même se passionne à ce moment-là pour les questions de sécurité. Il est l'un des conseillers d'Emmanuel Macron. Il s'intéresse beaucoup à tous ces aspects sécurité. Et donc, il est plutôt dans une autre logique qui est, au fond, de pousser la police à agir et à réprimer plus fortement.
On est là au cœur de l'ambivalence de cette grande question que nous traitons aujourd'hui, quand les citoyens font la police. Et naturellement, comme d'ordinaire, il faut que nous remontions loin en arrière. Arnaud Dominique Hout, il faut que nous évoquions le passage de l'ancien régime à la période révolutionnaire et aux décennies qui ont suivi. C'est une époque où le préfet de l'heure disait, s'écriait « Républicains, soyez dignes de ce nom, sachez vous garder vous-même ». Et au fond, on était assez clairement dans la ligne de l'Ancien Régime, où on demandait beaucoup au sujet du roi de se défendre eux-mêmes.
Tout à fait. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette phrase du préfet de l'heure, c'est qu'en fait, il réussit à habiller de vertu quelque chose qui relève plutôt justement d'un pis-aller. Alors en fait, la réalité, c'est qu'il y a peu de police professionnelle. Et comme on manque justement de force professionnelle, bah il faut bien demander aux citoyens d'intervenir, et en particulier à la fin des années 1790, contre les brigands, qui sont de plus en plus nombreux. On est dans le cycle des guerres révolutionnaires, il y a évidemment des déserteurs.
Il y a eu la grande peur en 1789, des bandes organisées s'en sont prises au château, un peu partout en France.
Tout à fait. Il y a d'une part d'ailleurs la réalité des violences, et puis surtout le fantasme, la crainte, parfois tout à fait fausse, mais ça n'empêche pas que les gens ayant peur s'organisent, prennent les armes, essayent de se défendre. Donc il y a ce premier principe qui est au fond celui de nécessité, on n'a pas le choix. Il faut bien justement que les individus participent à la fonction de police. Mais ce qui est intéressant dans la formule du préfet de l'Eure, et qui est une formule qu'on retrouve beaucoup à l'époque, hein, cette idée que les républicains doivent se garder, c'est qu'on va un peu plus loin. On considère que le fait de faire fonction de police, c'est pas seulement une nécessité pratique, c'est aussi un moyen d'affirmer sa souveraineté. Le bon républicain est vertueux, c'est un citoyen qui est capable justement de protéger lui-même en toute souveraineté sa sécurité.
Il y a une prolongation des comportements de l'Ancien Régime, mais avec une justification théorique qui a évolué, c'est bien ça ?
Exactement. En fait, on a une sorte de continuité. Continuité aggravée, hein, finalement, par le fait que dans les années 1790, les problèmes de sécurité sont plus criants, plus urgents que dans la période antérieure, et que les tentatives de professionnalisation du XVIIIe siècle ont un peu été freinées par la Révolution française. Donc il y a cette continuité, mais ce qui est vraiment nouveau, c'est effectivement l'habillage idéologique qui fait que désormais, le fait que des citoyens fassent la police, c'est quelque chose de positif.
Avec la naissance de la Garde nationale, qui est marquée d'entrée de jeu par cette ambivalence. Est-ce qu'il s'agit de protéger la propriété, qui est sacrée, comme nous savons, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ou est-ce qu'il s'agit d'exprimer, de porter une énergie révolutionnaire destinée à changer la société dans le sens du mieux ?
Les deux, en fait, en fonction des contextes, en fonction des lieux, des moments et des acteurs. Alors, cette garde nationale, c'est la continuité directe de ce qu'on appelait les milices bourgeoises, donc des pratiques justement collectives de défense de la propriété, qui existent donc bien avant 1789. Dès l'été 89 et la veille même du 14 juillet, donc avant même la prise de la Bastille justement, on a la création en fait d'une garde parisienne, une garde nationale, qui est là en fait pour une double fonction. Et c'est ça qui est vraiment tout à fait ambivalent et tout à fait intéressant. Sa première fonction, c'est de protéger l'ordre public que l'on craint justement de voir menacé, non sans raison.
Il y a eu une émeute, une fameuse affaire Réveillon, où la police a tiré sur la foule, quelques mois ou quelques semaines avant la prise de la Bastille.
À la fin du mois d'avril 1789, cette émeute Réveillon, elle est intéressante parce qu'elle a montré qu'il y avait une menace pour la sécurité, que la foule pouvait justement faire la révolution et détruire, mais elle a montré aussi que les polices professionnelles, l'armée du roi, étaient trop violentes. Et au fond, cette garde nationale qui se crée le 13 juillet, elle se place un peu dans l'entre-deux. Elle veut à la fois éviter le désordre et en même temps éviter que les soldats du roi ne fassent encore plus de désordre. Donc on est dans une sorte de tentative de compromis, mais évidemment c'est un jeu de balancier. Et toute l'histoire de la garde nationale, c'est l'histoire de la recherche d'un équilibre impossible entre la protection de l'ordre et l'affirmation de la souveraineté du peuple.
Cette date de la naissance de la garde nationale, que nous allons suivre tout au cours des décennies et du siècle suivant, est un moment important. Il est notable que ce soit Lafayette qui la dirige à l'origine.
Oui, Lafayette, c'est justement l'un des acteurs, l'un des premiers acteurs de cette révolution, avec une forte légitimité populaire et une légitimité militaire, ce qui est un point important qu'il faut garder en tête, parce que la garde nationale a tout de suite adopté un modèle paramilitaire. Elle prend l'uniforme, elle met en scène les armes, elle utilise des codes qui sont ceux de l'armée. Et c'est très important parce que l'armée au XVIIIe siècle est une prérogative de la noblesse. Les fonctions de commandement, les titres d'officier sont réservés à la noblesse. Donc la garde nationale, c'est la démocratisation du fait militaire. Et de ce point de vue, le rôle de Lafayette, ça donne une légitimité considérable à cette garde nationale.
Et Robespierre approuve dans un discours fameux, il s'écrit « N'avez-vous pas vu toutes les gardes nationales du royaume, surtout celles de Paris, suppléer avec autant de succès que de zèle aux anciens agents de la police et maintenir l'ordre et la tranquillité au milieu de tant de causes, de troubles et de désordres ?» On a beaucoup discuté de cela au cœur de l'Assemblée constituante. Un autre intervenant, le Pelletier de Saint-Fargeau, s'écrit « Non seulement il est légitime, mais c'est un devoir de seconder un citoyen qui est sur le point de succomber sous les efforts d'un assassin. » Et Duport, « Une chose qui est de droit naturel et que le droit social doit fortifier, c'est que le citoyen vienne en aide aux hommes bons attaqués par les méchants. » C'est, oui. C'est ce qu'Alexandre Benalla aurait pu dire.
C'est exactement l'héritage qu'il revendique ici. En fait, Ce qui est en jeu au moment où la Constituante réfléchit justement à la sécurité, à l'organisation de la sécurité publique, c'est la délimitation des fonctions entre les professionnels et les amateurs. Au fond, on voudrait que les citoyens soient acteurs de leur sécurité. C'est l'idéal qui est revendiqué ici. C'est pour ça qu'on admet le principe de légitime défense, qu'on l'élargit à la légitime défense non seulement de soi mais aussi d'autrui. Et c'est pour ça qu'on valorise cette garde nationale.
Et qu'on appelle aussi à la délation, c'est un point très important par rapport à nos préoccupations d'aujourd'hui.
Exactement. On considère que la dénonciation est une vertu civique. Le fait de dénoncer des crimes dont on a connaissance, des complots, des trahisons, puisque c'est le grand sujet de la Révolution française, hein, dans le contexte justement des menaces étrangères sur la France et sur la Révolution, on considère que le fait de dénoncer les traîtres est une nécessité absolue, un rôle civique majeur. On est dans l'idée que être acteur de la citoyenneté, c'est aussi participer justement à cette fonction de sécurité. Et pourtant, dès le début, dès les débats de 1790, on est bien conscient des limites d'un tel système. Sur le principe, on voudrait que les citoyens fassent leur sécurité. Dans la réalité, on sait bien, parce que depuis le XVIIe siècle, il y a des efforts de professionnalisation de la fonction policière, on sait bien qu'il faut des agents payés, formés, organisés pour cette fonction. Et c'est pour ça qu'on organise, en même temps qu'on valorise la garde nationale, on organise par exemple la gendarmerie nationale créée par la loi de 1791.
Avec toujours en arrière-plan, chez certains, l'inquiétude que cette légitime défense des bons citoyens n'aboutisse en fait à l'oppression d'une partie de cette nation aux dépens de l'autre. Même Robespierre s'écrit « On veut diviser la nation en deux classes dont l'une ne semblerait armée que pour contenir l'autre comme un ramassis d'esclaves toujours prêts à se mutiner. »
Exactement. En fait, ce que craint Robespierre, c'est la division sociale qui se constitue au sein de la garde nationale. Au début, l'idée, c'est que la garde nationale est l'héritière des milices bourgeoises, donc elle doit rassembler les propriétaires et uniquement eux. Et ça, c'est évidemment une limite considérable, parce que l'essentiel de la société n'est pas invité à prendre les armes, n'a pas le droit de participer à cette fonction de sécurité. Donc on est bien dans ce système clairement censitaire, clairement oligarchique, où finalement la garde nationale, l'organisation armée des bourgeois qui se protège aussi du peuple.
Avec déjà des protestations des sans-culottes ?
Oui, tout à fait, puisque c'est ce que dit Robespierre et c'est ce que disent une partie de ses citoyens. Ils veulent, eux aussi, avoir le droit de prendre les armes, d'exercer leur souveraineté et donc de participer à la fonction de sécurité. Donc, une des grandes questions qui traverse toute l'histoire de la garde nationale, c'est celle de sa composition sociale. Qui va en faire partie ? Et il faut préciser que cette question-là, elle est très complexe parce qu'elle se décline différemment selon les territoires. On connaît bien le cas de Paris parce qu'il est évidemment particulièrement stratégique.
Et c'est surtout de Paris que vous parlez dans votre livre.
Absolument, parce que Paris est beaucoup mieux documenté et que c'est là que le débat politique s'est concentré. Mais on sait que dans d'autres villes, et en particulier dans les espaces de plus petite taille, dans les villes moyennes, dans les petites villes, voire dans les campagnes, quand il n'y a pas une classe bourgeoise très organisée, la garde nationale est beaucoup plus démocratique. Elle est faite bien davantage par Monsieur Tout-le-Monde, dans la mesure justement où on a cette dimension de nécessité de la sécurité publique qui l'emporte finalement ici sur la volonté de faire un tri social.
Dans les débuts du 19e siècle, vous décomptez qu'un Parisien sur 15 appartiendrait à la garde nationale.
Oui, ça c'est la situation que l'on retrouve effectivement à peu près au début de la monarchie de Juillet notamment. Ça montre bien que cette garde nationale reflète une organisation sociale censitaire, inégalitaire, dans laquelle finalement il y a une distinction très forte entre la classe des propriétaires et celle effectivement des travailleurs qui ne sont pas invités à participer à cette fonction de sécurité.
Dans l'intervalle, il y a eu l'Empire et la méfiance naturelle du premier consul puis de Napoléon Empereur envers cette émergence possible d'une police qui ne soit pas celle de Fouché.
Tout à fait. En fait, l'histoire de la garde nationale, on pourrait la définir autour de deux cycles. D'une part, dans les périodes finalement plus démocratiques, plus libérales, elle a un environnement plus favorable. Alors que dans les périodes plus dictatoriales, où l'exécutif prend plus de poids, elle a un rôle limité. Hein. C'est le cas sous le Premier Empire, c'est le cas au début de la Restauration. Ça, c'est le premier cycle, finalement, qu'on retrouve ici. Le deuxième cycle, c'est aussi le cycle de la vitalité, on va dire, de cette garde nationale. Parce que un des problèmes majeurs, c'est que pour être garde nationale, ben, il faut sortir la nuit avec un uniforme, il faut faire des patrouilles. Et les bonnes volontés civiques ont tendance à vite diminuer et à s'essouffler. Et par conséquent, très vite, les gardes nationales ont tendance à fonctionner de manière très ralentie, très relâchée, faute de volontaires, tout simplement.
L'uniforme bleu qui devient progressivement détesté par une bonne partie du peuple.
Oui, puisqu'il incarne justement cette répression. La garde nationale est associée à un certain nombre de répressions, de manifestations. Alors ça avait été le cas de manière très forte justement pendant la Révolution française, avec la fusillade du Champ de Mars, où justement la garde nationale a ouvert le feu en 1791.
Sous l'autorité de Lafayette, ce qui a beaucoup diminué sa popularité, bien sûr.
Oui, pour lui, c'est la rupture complète. Hein. C'est le moment où Lafayette et la garde nationale basculent du mauvais côté. Ils sont plus du côté de la Révolution, ils sont du côté, finalement, des adversaires de la Révolution, ou du moins considérés comme tels.
La garde nationale, qui est vouée à un certain déclin, au moins provisoire, sous l'Empire et sous... au début de la Restauration, sous Louis XVIII et Charles X, va reprendre sous la monarchie de Juillet un éclat peut-être imprévu. Et probablement doit-on déjà considérer la manière dont elle joue un rôle lors de la Révolution de Juillet, qui amène Louis-Philippe au pouvoir. Guizot, qui était un grand homme de la période Louis-Philippe, écrivait, et c'était assez lucide, il montrait l'ambivalence, là encore, de la garde nationale. Il écrivait « La garde nationale de 1830 satisfait tout le monde. Les amis de l'ordre se promettent d'y trouver une force pour le maintenir à défaut de l'armée, matériellement et moralement affaiblie, l'armée. Les libéraux y voient la défense des libertés. Les démocrates y voient avec joie le peuple armé et mis en état d'intervenir dans les affaires publiques. » On ne peut pas mieux dire.
Oui, c'est le consensus. La garde nationale devient un objet de consensus. Alors, ce qui est particulièrement intéressant en 1830, c'est qu'en fait, la garde nationale n'a pas joué un très grand rôle dans la Révolution elle-même. Les gardes nationaux sont ni d'un côté ni de l'autre, ils sont plutôt chez eux.
Ils interviennent à la fin.
Voilà, ils interviennent en fait au moment où il faut redonner une légitimité à cette Révolution et où la garde nationale est une figure de consensus parce qu'effectivement elle peut satisfaire tout le monde, elle peut satisfaire les révolutionnaires qui y voient l'expression de la souveraineté du peuple et elle peut satisfaire le camp de l'ordre qui se dit que les gardes nationaux... ils défendent d'abord la propriété. Donc ils ne vont pas être très dangereux, ils ne vont pas être très révolutionnaires. On retrouve un équilibre qui est au fond l'équilibre que cherche à instaurer Louis-Philippe.
Eh bien écoutez donc cette chanson de 1834, une chanson de Victor Bazière qui s'appelle « Le garde national » qui est interprétée ici par Jean-Christophe Benoît dans « L'histoire de France par les chansons » en 1961. C'est un livre précieux et un ensemble d'enregistrements de Pierre Barbier et France Vernilla chez Gallimard.
Soldat de la garde nationale, je n'aime pas le scandale et c'est protéger l'État. Il faut me voir au port d'armes pour juger de mon savoir. Je ne suis pas un gendarme et remplis bien mon devoir. Mais plan, rata, plan, 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 on s'attroupe, l'on se groupe. Et plan, rata, plan, 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 on bat le rappel en avant. Je suis un joli soldat de la garde nationale, je n'aime pas le scandale et c'est protéger l'État. Je méprise les ministres, je hais le juste milieu, les gueux à mine sinistre et les faux pasteurs de Dieu. Mais plan, rota, plan, 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 on les eut dans la rue. Et plan, rota, plan, 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 tirons-les de là bravement. Je suis un joli soldat de la garde nationale, je n'aime pas le scandale et c'est protéger l'État. Si le tambour me rappelle, je ne sors pas de chez moi, je méprise la séquelle et je n'aime plus le roi. Mais plan, rata, plan, 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 Louis-Philippe craint la grippe. Et plan, rata, plan, 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 courons le sauver promptement. Je suis un joli soldat de la garde nationale, je n'aime pas le scandale et c'est protéger l'État.
Vous le retrouvez là, votre garde nationale?
Ah oui, c'est un très bel exemple. Là, on a vraiment un exemple de cette tradition satirique, parce que dans les années 1830, il y a une forte ébullition autour de la figure du garde national qui est très représentée en chansons, en estampes. Il y a des dessins de Daumier qui sont assez emblématiques. Il y a de la littérature aussi sur le sujet.
Philippon, le même qui avait donné à Louis-Philippe une tête de poire.
C'est ça, c'est l'âge d'or de la caricature, hein, finalement, ici, le premier âge d'or, en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est que le garde national, bah, c'est un bon client pour les caricaturistes. Parce que on l'entend ici, c'est celui qui a un uniforme, mais qui en même temps est un bourgeois. Donc, il est le beau soldat, mais c'est ironique, parce qu'en réalité, il n'a pas tout à fait l'image sociale du soldat courageux. Il a plutôt l'image du bourgeois qui se cache. Quand on bat le rappel, dit la chanson, il a tendance à rester chez lui. Parce qu'évidemment, il y a aussi cet absentéisme qui est très présent dans la garde nationale. Parce que, bon, des convocations pour les patrouilles de nuit, quand on peut s'y soustraire, on le fait bien volontiers. Et puis, de la même manière, on retrouve dans cette chanson, finalement, toutes les ambivalences d'une garde nationale qui, à la fois, finalement, est mise au centre des représentations du régime. C'est censé être l'emblème de la monarchie de Juillet, et en même temps, c'est un peu le comble de tous les ridicules. La garde nationale, c'est, au fond, ici, une bonne synthèse de cette monarchie de Juillet.
Alors, elle avance, la monarchie de Juillet, et elle tombe. En 1848, il y a un moment d'attendrissement chez beaucoup en face de la manière dont le peuple se mêle de police. Je vois, par exemple, ce témoin enthousiaste qui était Louis Ménard, du printemps 48, qui écrit « Des hommes en haillons veillaient autour des maisons des riches et faisaient partout respecter la sûreté individuelle et la propriété. Jamais les crimes et les délits ne furent plus rares que sous cette police populaire dont les bienfaits s'étendirent sur la banlieue. » Vision peut-être un peu en rose.
Vision certainement très optimiste, mais confirmée par de nombreuses sources. En fait, il y a un moment un peu enchanté du printemps 48, hein, tout simplement.
Entre février et juin.
C'est ça, un élan républicain et civique. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve au fond le principe de la garde nationale, mais poussé cette fois à son paroxysme démocratique. C'est-à-dire que après la révolution de février 48, l'idée c'est que la garde nationale doit accueillir tout le monde. Donc cette fois, on veut vraiment un système parfaitement démocratique. Et dans ce système parfaitement démocratique, on considère qu'il n'y aura plus de problème de sécurité puisque tout le monde sera policier. Alors c'est un peu une illusion, évidemment. Mais au moins à court terme, ça produit un certain nombre d'effets. Des commentateurs qui sont plutôt hostiles à la révolution de février comme Tocqueville admettent eux-mêmes que la situation n'est pas si mauvaise que ça au début du printemps. En revanche, ça ne dure qu'un temps.
Printemps, bref, hélas, puisqu'on en arrive très vite aux journées de juin où le peuple est écrasé. À la grande satisfaction d'un certain nombre de bourgeois, Tocqueville que vous évoquez, s'en félicite dans ses souvenirs.
Oui, absolument. Là, on a un moment de reprise finalement révolutionnaire en juin 48, la tentative de continuer cette révolution, ou plutôt de faire face aux réactions qui étaient en train de monter, et c'est un échec. Et c'est un échec qui se traduit par une répression sanglante. Et ce qui est très frappant, c'est que à ce moment-là, en juin 48, la garde nationale est présente des deux côtés. Elle est à la fois dans les barricades avec justement cette volonté de prolonger l'élan révolutionnaire, et elle est aussi en face des barricades, notamment les gardes nationales venues des villes de province, qui jouent un rôle militaire un peu secondaire, mais qui jouent un rôle symbolique majeur. Puisque ce rôle symbolique, justement, c'est de montrer que la légitimité de la garde nationale est du côté du pouvoir. Au fond, après 1848, l'idée qui s'impose, c'est que la garde nationale n'est pas vraiment efficace quand on veut l'enrôler du côté de l'ordre, et elle est aussi, d'une certaine manière, dangereuse, parce qu'elle peut toujours basculer de l'autre côté. Donc les pouvoirs politiques ont tendance désormais à se méfier considérablement de la mobilisation des citoyens sous un uniforme.
Et c'est le cas, bien sûr, du Second Empire. Napoléon III va dans ce sens.
Oui, absolument. Napoléon III, c'est sans doute celui qui, d'une certaine manière, commence à enterrer la garde nationale. Il ne la supprime pas, hein, elle fonctionne, mais elle n'a essentiellement qu'un rôle protocolaire. Et son rôle policier devient tout à fait marginal. Alors ce qui est très significatif, c'est que c'est le moment aussi, justement, où la police parisienne se réforme, où la gendarmerie nationale se développe. Et on voit bien que, en même temps qu'on abandonne au fond la garde nationale, on met beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour restaurer justement, enfin créer même des polices professionnelles beaucoup plus puissantes.
La période de la guerre contre la Prusse et de la Commune constitue le dernier moment d'un certain éclat de la garde nationale. Ce sont ces derniers feux.
Oui, c'est la dernière tentative au fond. On dit parfois de la Commune qu'elle est la dernière révolution du 19e siècle. Au fond, dans cette continuité de 1789, dans cet imaginaire qui vient profondément de la Révolution française. Et donc, sans surprise, avec la Commune de Paris, et même avant ça d'ailleurs avec le siège de Paris, on retrouve toute une imagerie de la garde nationale qui est mobilisée aussi dans des fonctions militaires, puisqu'il faut lutter contre les Prussiens, bien sûr, dans la guerre qui continue. Et qui devient le levier, le vecteur finalement d'une démocratisation. L'instauration de la République à la suite du Second Empire s'accompagne justement d'une revalorisation de la garde nationale, considérée à nouveau, mais pour la dernière fois sans doute, comme un acteur important justement du peuple souverain.
C'est le temps de l'ironie qui déborde. On peut entendre le jeune Rimbaud, il n'a que 16 ans, qui écrit ceci, « C'est effrayant les épiciers retraités qui revêtent l'uniforme. C'est épatant comme ça a du chien. Les notaires, les vitriers, les percepteurs, les menuisiers et tous les ventres qui, chasse-peau au cœur, c'est le fusil chasse-peau, font du patriotisme aux portes de Mézières, au lieu du patriotisme. Ma petite patrie se lève, moi j'aime mieux la voir assise. » Fin de citation de Rimbaud.
Rimbaud qui a 16 ans et qui a un regard acéré, on peut dire, sur son temps. Alors c'est intéressant, hein, il reprend ici ce mot « patriotisme qui est un mot qui était apparu sous la Révolution française pour se moquer justement de la dérive de la garde nationale. Parce qu'on disait que les gardes nationaux étaient au début des patriotes, qui avaient du patriotisme, mais qu'à force d'entraînement militaire, d'uniforme et de discipline, il faisait du patriotisme, l'un ayant chassé l'autre.
Oui, le patriotisme, effectivement, chassant le patriotisme en particulier du Palais Royal.
Exactement. Donc là, on a un imaginaire hein, dont Rimbaud reprend finalement ici des formes qui étaient à l'époque assez célèbres et qui montrent bien que même chez les jeunes gens de 1870, la garde nationale a une image, on va dire, plutôt passéiste.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Alors elle est morte, cette garde nationale, et pourtant elle va, sous une autre apparence, ressusciter au moins brièvement au moment de la Grande Guerre en 1914.
En fait, la garde nationale a disparu après la Commune de Paris, plus personne n'en voulait, et le terme d'ailleurs ne sera plus jamais revendiqué au XXe siècle. Donc la garde nationale, on peut considérer qu'elle a disparu. En revanche, l'idée que des citoyens peuvent venir aider la police dans un contexte troublé, c'est une idée qui revient régulièrement et qui va revenir tout spécialement en 1912-1913, quand on anticipe le risque imminent d'une guerre et qu'on prend conscience que si la guerre a lieu, les gendarmes sont des militaires et pour beaucoup d'entre eux vont faire de la police prévôtale, donc ils ne seront pas à l'intérieur. Les policiers, pour beaucoup, sont des hommes jeunes qui vont être mobilisés. Donc, on mesure avec une petite anxiété à l'époque où il y a quand même des angoisses sécuritaires. C'est le temps des Apaches, c'est le temps des menaces sur la sécurité, c'est le temps de la bande à Bonneau. Dans ce contexte-là, quand on comprend que beaucoup de policiers et de gendarmes ne seront plus là, on se dit qu'il faut les remplacer. Et pour les remplacer, on met en place, c'est une idée de 1913 hein, qui s'applique vraiment juste avant la guerre, on met en place un système de mobilisation, on va dire des vétérans, des retraités, hein, puisqu'il s'agit d'organiser la mobilisation des volontaires qui ne sont pas susceptibles d'être mobilisés pour les besoins de la guerre.
Mais puisque vous évoquez la bande à Bonneau, peu de temps avant la Grande Guerre, on peut s'y arrêter un instant. C'est un moment paroxystique de l'émotion populaire devant une insécurité. Vous parliez des Apaches. La bande à Bonneau, de fait, se termine tragiquement lorsque son chef, Bonneau, est assiégé puis tué dans une villa à Choisy-le-Roi. On est en avril 1912. Or, ce qui frappe du point de vue qui nous occupe, c'est-à-dire la question des citoyens policiers ou en aide à la police, c'est de voir des milliers d'habitants de la ville se précipiter après avoir sorti leurs fusils de leurs armoires et jouer un rôle majeur dans l'assaut de cette villa avec, du côté de la police, des réactions évidemment, là encore, ambivalentes.
C'est une histoire extraordinaire parce qu'on est un dimanche matin à Choisy-le-Roi et c'est pas n'importe quel dimanche, c'est le jour des premières communions. Donc tous les habitants de la ville, beaucoup d'habitants en tout cas, sont réunis dans le centre-ville, dans l'église. Et ils apprennent effectivement qu'on vient de retrouver Bono. Bono qui fait la une des journaux depuis 3 mois. Hein. C'est vraiment l'événement majeur de l'époque. Il est caché dans un garage à côté de chez eux. La police commence à l'assiéger et la police n'est pas encore en nombre. Elle attend des renforts. Et c'est pour ça qu'un grand nombre de ces habitants de Choisy-le-Roi vont chercher leurs fusils de chasse. Alors certains viennent en habit justement du dimanche, hein, en habit de communion. Mais voilà, la fête ce jour-là, ça sera la chasse aux brigands. Et donc ils vont assiéger Bono.
C'est une image que vous avez choisie pour la couverture de votre livre, Arnaud Dominicoud, sur les citoyens policiers.
Oui, c'est une image, il y a eu beaucoup de photographies et de cartes postales qui mettent l'accent hein, justement sur ces individus qui participent à la lutte contre Bono. Alors c'est intéressant parce que du point de vue policier, c'est pas vraiment un atout. Les policiers sont quand même assez sceptiques sur la valeur ajoutée de ce renfort, d'autant plus que ça a failli mal se terminer. Il y a quand même, quand le cadavre de Bono est évacué du garage de Choisy-le-Roi, des bons citoyens qui essayent de le frapper, qui veulent le toucher. Enfin, on sent que le lynchage est quand même très proche. Il est déjà mort de toute façon, mais on sent que c'est difficile de contrôler ces émotions populaires, ces énergies civiques.
La notion de lynchage est présente à travers toute cette histoire, parce que c'est aussi un élément de cette histoire que nous évoquons ce matin, le rôle des citoyens. Ils jouent un rôle à titre individuel, dispersé, mais aussi en foule, en masse, ainsi dans le cas de Bono.
Oui, alors c'est quelque chose qui est très révélateur, c'est le glissement d'ailleurs de l'imaginaire du lynchage. Au XIXe siècle, notamment à la fin du XIXe siècle, l'image de la foule qui lynche, c'est l'image de la terreur, c'est l'image des foules démocratiques qui sont dangereuses. On retrouve ça chez Hippolyte Taine, etc. C'est l'idée que la foule démocratique peut être une foule violente. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, on commence à avoir un glissement. La foule dangereuse, ça peut être cette foule justicière, cette foule qui demande vengeance face à un incident, de la délinquance, du crime. Cette foule qui, dans le cas justement de la bande à Bono, va participer à la chasse aux brigands au risque justement de déborder les policiers et au risque finalement de se substituer à la justice.
Vous nous avez montré que lors de la guerre de 14-18, l'idée d'une garde civique n'avait pas prospéré, assez vite disparu. En revanche, évidemment, la période de la Seconde Guerre mondiale va être le moment focal de ce type de tentation. C'est-à-dire, à côté de la police officielle, l'arrivée d'autres groupes, la milice de Darnan incarnant cela avec d'une manière sinistre.
Oui, il y a un chaînon d'abord à faire entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est que cette garde civile de 1914, qui n'a pas été très utile, puisqu'en réalité, les enjeux de sécurité ont été limités, donc on a vite abandonné cette garde civile qui posait plus de problèmes finalement qu'elle n'offrait de réponses. Mais on retrouve l'idée en 1939. On se dit que de la même manière, peut-être il faudrait justement organiser le maintien de l'ordre en contexte de guerre. Et le problème devient surtout criant en 1940 avec l'effondrement de l'État, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, avec la mise en place de ce qu'on appelle l'armée d'armistice, c'est-à-dire une réduction considérable des effectifs militaires, qui a notamment un impact très direct sur les effectifs de gendarmerie. Donc il y a moins d'armes, moins de gendarmes, moins de policiers en 1940, et la nature ayant horreur du vide, et les Allemands ayant grand besoin de services d'observation, de surveillance, notamment des aviateurs ennemis, on exige des services de patrouille, des services de surveillance à l'échelle locale, et on va avoir une floraison incroyable de gardes. Alors des gardes qui ont des noms très variés, les gardes des voies de communication, les gardes paysannes, les gardes rurales. On a l'impression que chaque département invente son propre système, mais à chaque fois l'idée est la même, c'est d'obliger les gens à faire des plantons, des patrouilles, des surveillances un peu ordinaires.
Sous l'autorité des préfets de Vichy, mais dès la drôle de guerre, On a beaucoup développé l'idée qu'il fallait être attentif aux espionnages possibles, à la cinquième colonne, etc. Soyez vigilants.
C'est ça. C'est là, on est dans cette continuité-là. On est dans l'idée que le bon citoyen, c'est celui qui se méfie de la cinquième colonne, des espions, celui qui, justement, va fournir de l'information aux autorités. Donc, il y a cet appel, finalement, à la vigilance qui est très présent dès 39. Et on va s'appuyer dessus, et puis on va exiger, hein, tout simplement, là, vraiment des patrouilles, des missions de surveillance qui sont mal acceptées par les populations, parce que évidemment c'est une surcharge de travail dans un contexte qui est déjà difficile. On leur demande de veiller la nuit pour protéger des installations qui sont parfois des installations militaires allemandes. Donc il y a aussi cette idée qu'on joue contre son camp, qu'on est obligé finalement de collaborer d'une manière très limitée en réalité, mais ça crée beaucoup de malaise, et ça crée aussi le sentiment que les fonctions de police sont de plus en plus illisibles, disséminées. Et c'est dans ce contexte-là, finalement, que se développe la milice de Joseph Darnand, parce que la milice, au début, c'est ce qu'on appelait le service d'ordre légionnaire. C'est un appendice, finalement, de la Légion. C'est une sorte de bras armé d'un parti politique pro-Vichy, et qui, petit à petit, va se mettre à phagocyter l'ensemble des systèmes de sécurité.
Le SEL devenant les miliciens, et Darnand, à la fin, est devenant secrétaire d'État, ministre de Vichy, de
Exactement.
Pétain.
En janvier 1944, Darnand devient justement le grand responsable du maintien de l'ordre. Et à ce moment-là, au fond, la milice en vient à être installée au cœur de l'appareil d'État, au grand mécontentement d'ailleurs des policiers et des gendarmes, hein, qui voient d'un très mauvais œil. Alors il y a deux manières de les présenter, ces amateurs, parce qu'en termes de police ce ne sont pas des professionnels, et ces idéologues, parce que s'ils sont dans la milice, c'est bien parce qu'ils ont une volonté justement de mettre en place cette révolution nationale de Vichy.
Ils ont prêté serment au
ils
maréchal
ont prêté
et à
serment.
Darnand.
Il y a une dimension fascisante qui est très évidente dans le cas de la milice.
Ce sont aussi des assassins, ce sont oui. Eux que l'on charge d'assassiner, par exemple Georges Mandel ou Jean Zay, haï par le régime de Vichy et par
Exactement.
Le maréchal en particulier.
C'est une police qui n'a plus aucun scrupule et donc qui n'est pas du tout dans les codes habituels de la police ou de la gendarmerie, fût-elle impliquée dans la collaboration. Donc, pour ces raisons, justement, la milice s'est un peu présentée comme le repoussoir. C'est, au fond, le modèle ultime de la mauvaise délégation des forces de police, parce qu'on considère que la milice, ça a montré ce qu'il faut plus jamais faire.
Il n'empêche qu'en face, il y a une police des résistants qui, pendant un certain temps, échappe aussi à l'autorité centrale, aux grandes dames d'ailleurs du général de Gaulle, président oui. du gouvernement provisoire.
Alors c'est une histoire qui m'a beaucoup passionné, parce qu'on la connaît sous son angle politique, de la lutte entre d'un côté le général de Gaulle et de l'autre le Parti communiste. Mais c'est une histoire qui se décline vraiment à l'échelle locale de manière très précise, qui est très très riche. On a d'un côté finalement la volonté de Gaulle de restaurer l'autorité de l'État et donc de s'appuyer sur la police et la gendarmerie légalement constituées. Et de l'autre, la volonté des anciens de la résistance de garder le contrôle de la sécurité.
On est donc au centre de notre problématique de ce matin, c'est-à-dire le cas où les citoyens font la police.
Exactement. Là, l'idée des résistants, c'est qu'ils ne veulent plus que les policiers et les gendarmes se substituent à eux. Ils considèrent que leur légitimité est finalement viciée par l'expérience de la collaboration. Et donc, ils veulent que ce qu'on appelle d'abord les milices patriotiques, puis les gardes civiques républicaines, exercent la réalité du maintien de l'ordre. Alors, on retrouve toujours les mêmes problèmes, à savoir que, évidemment, ces gardes civiles républicaines, elles ont du mal à s'organiser, elles ont du mal à rester motivées, elles sont suspectées d'être inefficaces, d'être violentes, d'être surtout très militantes, parce qu'elles sont très largement noyautées par le Parti communiste. Et tous ces éléments-là, en plus des négociations du général de Gaulle avec les communistes, font que, au début de l'année 45, on abandonne ces gardes civiques républicaines. Et la police et la gendarmerie reprennent la place qu'elles avaient finalement avant la Seconde Guerre mondiale.
Sous l'autorité des commissaires de la République nommés par De Gaulle, et parfois grâce à l'envoi de ministres communistes d'ailleurs. Charles Tillon est délégué dans la région du Vaucluse ou de Marseille pour aller donner instruction à ces ensembles de se dissoudre.
Oui, tout à fait. Et on retrouve aussi le rôle de Raymond Aubrac, qui est très intéressant de ce point de vue-là, puisque Raymond Aubrac, justement, est à l'origine, au fond, d'une certaine manière, de la création des CRS. Hein. Les CRS, au début, Compagnie Républicaine de Sécurité, c'est justement une sorte d'hybridation entre les polices issues de la résistance et les polices professionnelles.
Il ne faut pas attendre très longtemps pour que, sous l'autorité de Jules Moc, ministre de l'Intérieur, socialiste à poigne, les CRS deviennent vraiment une institution d'État.
C'est la guerre froide qui, là, pour le coup, va abattre, pour le coup, un tranchant très net hein, sur cette question. Et dans les CRS en particulier, les anciens communistes vont être assez rapidement épurés ou poussés à la démission. Et donc, les CRS vont largement perdre leur origine résistante et devenir une police, enfin, un élément de la police parmi les autres.
On pourrait, Arnaud Dominicoud, s'étendre longuement sur le cas de la guerre d'Algérie, qui voit naturellement proliférer toutes sortes d'instances paramilitaires ou parapolicières. Beaucoup de citoyens à la marge de la police, avec dans l'intermédiaire les barbouzes.
Oui, c'est un moment particulièrement fort de cette histoire, mais c'est un moment de toute façon pour lequel il y a encore beaucoup de recherches à faire, notamment parce que les archives ne s'ouvrent que récemment, et donc là, pour le coup, c'est un front pionnier de la recherche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur le sol algérien un développement considérable des milices, et on voit qu'il y a une histoire totalement différente, sans surprise, hein, dans un contexte colonial. Ce qui semble se dégager pour le moment de la lecture des archives, c'est que ce qui se passe sur le sol colonial n'a que des répercussions limitées sur le sol métropolitain. Et on n'a pas beaucoup de milices constituées à la fin des années 50 sur le sol français. Mais encore une fois, là, ce sont des sujets sur lesquels d'autres recherches seront amenées.
Et ce sont des recherches qui, notamment, devront éclairer le rôle du SAC, le fameux service d'action civique assez sulfureux. Mais je voudrais surtout insister pour finir avec vous, Arnaud Dominicoud, sur cette sorte de mutation des esprits, des sensibilités qui pivotent autour notamment de mai 68. C'est le temps où Jean-Roger Caussimon offre cette chanson, 1975, qui s'appelle « Les milices » et qui reflète assez bien cette évolution, au moins du côté de la gauche, cette évolution du regard jeté sur les citoyens qui font la police ou qui ne devraient pas la faire.
Préparez vos fusils et créez vos milices, nostalgiques du tir et chasseurs sans gibier. Des fois que des loups-bars viendraient dans le quartier, suivez votre penchant, soyez de la police, à l'abri des volets de vos pavillons tristes. Meublez vos insomnies jusqu'au jour incertain, car la rue est peuplée de sombres anarchistes, de noirs, de portugais et de nord-africains. Vous, vous êtes français, français à part entière, même ancien combattant et parfois résistant. Et cet obscur chemin de torture et de sang, certains le referaient s'il était à refaire. Vous avez mérité avant le dernier souffle de vivre dans le calme et la tranquillité, d'endosser vos gilets, de chausser vos pantoufles et de fermer les yeux sur la réalité.
Jean-Roger Caussimon, 1975, suivez votre penchant, soyez de la police, même ancien combattant et parfois résistant. Arnaud Dominicoud.
Cette chanson, elle est assez incroyable parce qu'elle nous montre finalement ce qui devient la nouvelle époque des milices à partir des années 70. Il faut rappeler d'abord que dans les années 70, il y a une forte augmentation de la délinquance, notamment de la délinquance contre la propriété. C'est l'explosion des vols liée hein, tout simplement à la société de consommation. Donc on a, avec le développement des assurances, de la consommation de masse, une hausse du vol, d'un vol que la police a beaucoup de mal à prendre en charge. Et donc ça crée un sentiment d'insécurité qui ne se nourrit pas du grand banditisme, mais qui se nourrit ici justement des petites infractions ordinaires, le vol d'automobile, cambriolage, etc.
Je rappelle que vous êtes un grand spécialiste du vol, non pas comme acteur bien sûr, mais comme observateur.
Oui, je vous remercie. Effectivement, là, dans un précédent travail, j'avais montré qu'il se passe quelque chose dans les années 70, et ce qui se joue justement a pour conséquence de créer un décalage entre ce que peut faire la police et ce que demandent les citoyens. Et dans ce décalage, les milices s'engouffrent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien dans la chanson, hein, c'est une chanson qui est clairement hostile, bien sûr, à ces phénomènes miliciens, mais Jean-Roger Cossimon dit aussi, il parle d'anciens combattants, parfois résistants. Il le dit bien, c'est pas forcément des gens qui seraient automatiquement d'extrême droite, qui se mobilisent dans ces milices, c'est justement des réflexes civiques, des effets d'âge également, des effets de propriété. Et puis, et c'est important parce que la chanson l'évoque, des effets de racisme. Il évoque justement la menace de l'immigration et ça, c'est un thème qui monte également dans les années 70 et dont on sait évidemment qu'il n'a pas disparu au début du 21e siècle. L'association entre délinquance, insécurité et immigration étant toujours un fond de commerce notoire.
Arnaud, Dominique Hout, merci d'avoir montré la richesse de cette chanson qui n'est pas simpliste et qui peut déjà nous conduire à cette période contemporaine que nous évoquions en commençant.
Oui, tout à fait. Je pense que là, il y a un cheminement qui est assez clair. Ces milices des années 70, elles ont un peu disparu dans les années 80-90 parce que la police, justement, a essayé de répondre à la demande de sécurité, plus ou moins bien, mais en tout cas en faisant quelques changements et notamment avec le développement des polices municipales, dont l'éclosion finalement a constitué une première réponse à ce chaînon manquant entre le citoyen et le policier. Et on voit bien, comme on le disait au début avec les voisins vigilants, que dans la période très récente, bah de nouveau, le fossé s'est creusé, la distance existe. Au fond, pour moi, c'est la grande idée, la grande conclusion à laquelle j'aboutis dans ma recherche. Cette histoire des citoyens policiers, c'est l'histoire de la difficulté pour la police de répondre aux attentes des citoyens. Et donc, la question des citoyens policiers, c'est d'abord la question de comment la police peut justement écouter et réagir justement aux demandes populaires.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Votre livre, Arnaud-Dominique Hout, s'appelle « Citoyens policiers, une autre histoire de la sécurité publique en France, de la garde nationale, nous en avons beaucoup parlé, de la garde nationale aux voisins vigilants ». Vous avez été publié aux éditions de La Découverte tout récemment. Je vous avais invité, nous l'avons évoqué brièvement, pour parler du vol, propriété défendue, la société française à l'épreuve du vol, 19e, 20e siècle, publié chez Gallimard, dans la Bibliothèque des Histoires en 2021. Et puis aussi, en 2022, un livre sur les peurs de la belle époque, attentats, crimes et catastrophes. Nous ne sommes pas si loin du sujet qui nous a réunis ce matin. Vous faites fond largement sur le livre précieux de Gilles Favrel-Garrigue et Laurent Gaillet qui s'appelle « Fier de punir, le monde des justiciers hors la loi » qui s'attache à la grande question de l'effet notamment des nouvelles technologies, l'usage des nouvelles technologies par des justiciers inédits, publication du Seuil. Voilà, vous trouverez naturellement d'autres ouvrages, d'autres titres sur notre site, dans notre bibliographie, qui sera plus complète. Et vous y trouverez les références, vous le savez, les documents sonores que nous avons utilisés en étant à même d'écouter, de réécouter et de podcaster cette émission.
Bandit, voyou, voleur, chenapan, qu'est-ce que c'est hurlement ? Bandit, voyou, voleur, chenapan, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents. Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée.
Tout en vous donnant à écouter un fameux poème de Jacques Prévert qui s'appelle « Chasse à l'enfant », interprété ici par Mouloudji en 76 sur une musique de Joseph Kosma. C'est un poème qui évoquait l'évasion d'un certain nombre d'adolescents emprisonnés à Belle-Île qui s'étaient échappés et qui ont été poursuivis assez sauvagement par des habitants de l'île et par des touristes. Que je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Inès Benslama, réalisée par Vincent Abouchard, avec Maï Tran à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, Emmanuel Lucioni pour les archives de l'INA et Corinne Chauvel pour la documentation.
Bandit, voyou, voleur, chenapan, rejoindras-tu le continent ?
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290 euros par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3000 euros suivi de 36 loyers de 290 euros réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.